Il est 10h à Paris, 9h à N'Djamena, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue. Dans 10 minutes, vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes, vos réactions sur le Tchad après la décision de l'opposant Succès Masra de boycotter les législatives. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Grégoire Morelli.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. À la une, l'ouverture du sommet des BRICS en Russie ce mardi, le bloc qui revendique depuis l'année dernière un élargissement de ses membres et les candidats pour les rejoindre sont nombreux, vous l'entendrez. Toutefois, tout n'est pas rose au sein de l'organisation, particulièrement entre la Chine et l'Inde, mais les deux puissances tentent de résoudre leurs différends, notamment sur la question de leurs frontières. L'autre grand rendez-vous international du moment, c'est la COP16 sur la biodiversité à Cali, en Colombie. 2 semaines de négociations pour préserver le vivant. Mais l'autre grand enjeu de cet événement, c'est aussi la sécurité des représentants des 193 pays présents sur fond de menace d'un mouvement de guérilla qui a promis de faire de cette COP16 un fiasco. Enfin, des nouvelles de Paul Biya, le président camerounais qui n'avait plus été vu depuis 7 semaines, a atterri hier à l'aéroport de Yaoundé. Une absence qui avait suscité des rumeurs sur son état de santé. La Russie accueille ce mardi jusqu'à jeudi le 16e sommet des BRICS. C'est la ville de Kazan qui a la charge d'accueillir la vingtaine de chefs de dirigeants qui font le déplacement. Les BRICS qui espèrent prendre la relève d'un Occident affaibli, alors que pour la Russie, il s'agit de contrecarrer le relatif isolement international qu'elle connaît depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le bloc comprend non seulement le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, mais aussi 5 pays fraîchement intronisés, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis ainsi que l'Arabie saoudite. L'organisation a le vent en poupe et d'autres candidats frappent déjà à la porte comme la Thaïlande ou la Malaisie. Écoutez à ce sujet le chercheur Sébastien Boussois, il est spécialiste du monde arabe et de la géopolitique.
Dans un contexte global de désoccidentalisation depuis maintenant plusieurs décennies que l'on a vu venir progressivement avec cette locomotive chinoise, il y a de toute évidence la volonté, peut-être d'à peu près les 3/4 de la population mondiale, d'envisager un ordre mondial alternatif. C'est que le système du multilatéralisme et des Nations Unies, qui a été créé en 1945, ne représente probablement plus les grands équilibres du monde. Donc ils existent, ces contrepoids. Maintenant, la question, c'est comment et est-ce que ces pays ont envie de s'unifier pour peser suffisamment et représenter quelque chose qui puisse prendre des décisions, qui puisse légiférer, qui puisse apporter des systèmes de médiation internationale, qui puisse produire une monnaie alternative au dollar. Et tout ça est encore très frais, mais en tout cas, on voit bien que la volonté y est et que surtout, il y a une véritable mode de rejoindre ce groupe des BRICS, puisque au-delà de ceux qui sont arrivés au mois de janvier, il y a des nouveaux pays qui veulent s'intégrer au BRICS Plus, comme la Turquie, le Venezuela ou la Malaisie, par exemple.
Sébastien Boussois, spécialiste de la géopolitique, c'était au micro de Heike Schmidt. Et parmi les grandes puissantes de ces BRICS, je vous le disais, figure l'Inde. Le pays et son voisin chinois affirment d'ailleurs avoir trouvé un accord concernant les patrouilles le long de leurs frontières disputées dans l'Himalaya. Cette annonce a eu lieu juste avant l'ouverture du sommet, mais surtout, elle intervient 4 ans après des affrontements meurtriers dans la région entre les deux pays. Depuis, des incidents sporadiques le long de cette frontière ont eu lieu à plusieurs reprises, des tensions entre les deux voisins qui sont toujours vives. C'est pourquoi la relation entre les deux grands rivaux asiatiques sera scrutée de très près lors de ce sommet, comme Bastin.
Depuis 1962, les deux pays se disputent 4000 km de frontières sur le toit du monde, un différend qui se rappelle régulièrement dans leurs relations, comme lorsqu'en juin 2020, une vingtaine de soldats indiens et chinois avaient trouvé la mort lorsque 2 patrouilles s'y étaient croisées. Les relations entre les deux pays étaient depuis au plus bas, décrites le mois dernier comme « pas terrible » par le ministre des Affaires étrangères indien, qui jugeait encore que l'Inde avait un problème chinois. L'accord annoncé ce lundi concerne la répartition des patrouilles sur la ligne de contrôle, une zone tampon démilitarisée. Il ne règle pas le différend frontalier, mais vise à calmer la surenchère dans la région. L'Inde reproche notamment à la Chine de construire des villages de peuplement collés à la ligne, une provocation. Cette détente affichée au moment où s'ouvre le sommet des BRICS ne doit rien au hasard. L'Inde et la Chine portent deux visions concurrentes pour le club des pays du Sud. Les rencontres entre Xi Jinping et Narendra Modi y sont toujours scrutées. Avec cet accord, les deux géants veulent montrer que cette rivalité n'est pas insurmontable. Combastin, Bangalore, RFI.
Et en marge de ce sommet est également prévue une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis 2022, année où Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine. Au Proche-Orient maintenant, Anthony Blinken est arrivé en Israël. Il se rendra demain en Jordanie. Le secrétaire d'État américain en tournée dans la région pour la 11e fois depuis le 7 octobre avec l'objectif de tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais rien n'est moins sûr, d'autant que tôt ce matin sur le front nord, le Hezbollah libanais a lancé des roquettes sur plusieurs positions en Israël, dont une base navale et une base de renseignement militaire près de Tel Aviv. Des bombardements israéliens aussi sur le Liban, 13 morts et 57 blessés sont à déplorer dans une frappe israélienne près d'un hôpital de Beyrouth. Israël qui a également revendiqué hier soir l'élimination en Syrie d'un haut responsable de la milice chiite chargé d'une importante partie du financement du mouvement libanais. Tel Aviv a annoncé en effet il y a quelques jours sa volonté de frapper la milice chiite au portefeuille en ciblant ce qu'elle qualifie de bras financier du Hezbollah. Ainsi, dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée avait indiqué avoir frappé près de 30 cibles liées à l'organisme financier Al-Qard Al-Hassan, proche du Hezbollah. Dans le reste de l'actualité, la COP16 biodiversité se poursuit à Cali, en Colombie. 23 000 personnes sont inscrites pour représenter 196 pays. Les participants sont présents pour dresser un état des lieux et pour voir comment se concrétisent les engagements pris il y a deux ans à Montréal. Mais cet événement se double également d'un enjeu de sécurité pour le gouvernement colombien à cause de la présence de groupes armés dans la région. La plus grande faction dissidente de l'ex-guérilla des FARC s'est exprimée il y a une semaine en recommandant aux délégués de la communauté nationale et internationale de s'abstenir d'assister à cette COP, promettant que celle-ci serait un fiasco. Ursula Cabezas, journaliste à Radio Unibal, radio associée de RFI à Cali, détaille les mesures de sécurité mises en place pour protéger cette COP 16 dans ce contexte de tension avec les groupes armés non démobilisés.
Le maire de Cali a annoncé la mise en place d'une plateforme de coordination qui implique les renseignements ainsi que des policiers de New York. Au total, il y aura 4000 policiers colombiens supplémentaires chargés de surveiller la COP à Cali et également les zones rurales proches de la ville. L'une des menaces qu'affrontent les autorités colombiennes, c'est la présence du groupe Jaime Martinez, présent dans le Cauca, le département voisin, et dans la ville de Jamundi, située à 20 minutes de Cali. Ce groupe a émis des menaces contre ce sommet international et contre les forces armées présentes dans la région pour protéger la population.
Ursula Cabezas, journaliste à Radio Unival, radio associée de RFI à Calais. Elle était interviewée par Ana Maria Ospina de la rédaction en espagnol de Radio France Internationale. Au Pérou voisin, l'ancien président Alejandro Toledo, condamné ce lundi par un tribunal de Lima à une peine de 20 ans et 6 mois d'emprisonnement. L'homme de 78 ans est accusé d'avoir touché des dizaines de millions de dollars pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht. Son avocat a indiqué à la presse son intention de faire appel de ce jugement. Et on termine cette édition avec le retour au pays de Paul Biya. Le président camerounais de 91 ans a regagné Yaoundé hier au terme d'une absence de 7 semaines. Une absence durant laquelle ses compatriotes n'ont eu aucune nouvelle ou presque de leur président. Et ce silence a généré une foule d'inquiétudes et de rumeurs concernant son état de santé. Rumeurs et interrogations que ce retour a soigneusement mis en scène et permis de taire, espère-t-on du moins du côté du pouvoir camerounais. Les précisions avec Paul.
Il a fallu pour les Yaoundéens de découvrir au petit matin de cette journée de lundi les rues pavoisées des affiches du chef de l'État pour se convaincre que le retour était effectivement à l'ordre du jour. Posées notamment sur les principales artères de la capitale, elles annonçaient en français et en anglais « Bon retour, monsieur le président ». Le RDP, c'est parti au pouvoir, a aussi pleinement joué sa partition, mobilisant des milliers de militants d'abord à l'aéroport international de Yaoundé, puis sur le long des 25 km de trajet du cortège présidentiel jusqu'au palais d'Etudi où vit et travaille Paul Biya. La télévision nationale, la CRTV, a aussi été mise à contribution pour achever de convaincre les sceptiques avec la mission de montrer aux Camerounais que leur chef d'État était bien là. Et Paul Biya, les Camerounais l'ont bien vu dans un bref échange de 5 minutes au pied de l'avion avec son secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Gongo. Pas de déclaration à la foule nombreuse ayant pour le déplacement de l'aéroport, encore moins aux téléspectateurs massés derrière leurs écrans de télévision. L'armée d'éditorialistes mobilisés pour commenter ce retour qui, d'après eux, vient clore un chapitre où aucune rumeur alarmante n'a été épargnée aux Camerounais. Cela suffira-t-il pour rassurer un peuple gagné ces dernières semaines par une certaine inquiétude et angoisse sur son avenir? Les jours prochains, nous le dirons. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
Fin de cette édition, c'est à vous, Juan Gomez.
Merci Grégoire Morelli. 8h10 en temps universel.